partout en Île-de-France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98 FM.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Jacqueline Voraz sur Radio IDFM avec Francky à la technique. Bonjour Francky. Bienvenue sur IDFM Radio, la radio en FM et en DAB+, pour mieux nous suivre dans le monde entier. Lutte contre la pauvreté et l'exclusion, bourse de l'entrepreneuriat engagé, mentorat. Aujourd'hui, mardi 14 février, à l'économie en direct, coup de projecteur sur ces thèmes particulièrement d'actualité. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ce matin Fiona Lazar. Bonjour Fiona.
Bonjour Jacqueline.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Fiona, vous êtes la présidente du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, le CNLE. Avec vous, nous passerons en revue vos actualités, avec bien sûr un focus de ce groupe de travail du CNLE, destiné à produire un ensemble de réflexions pour ne laisser personne en situation de grande pauvreté. À vos côtés, Amel Guédoum. Bonjour Amel.
Bonjour Jacqueline.
C'est un vrai plaisir de vous accueillir dans nos studios, Amel.
Toujours.
Alors, vous êtes responsable du pôle partenaire communication événement chez Initiative 95-78. Avec votre énergie habituelle, vous participez à un projet axé sur la bourse de l'entrepreneuriat engagé, sur le mentorat, des moyens pour certains jeunes, parfois sans réseau ou sans appui, de faciliter leur insertion professionnelle. En compagnie donc de trois candidats, justement, sélectionnés par Initiative 95-78, vous nous présenterez en détail ce projet et vos attentes pour en faire un succès. Parmi ces trois candidats, Linda Nguyen. Bonjour Linda.
Bonjour Jacqueline.
Merci d'avoir accepté mon invitation.
Merci à vous.
Linda, alors vous êtes en création d'entreprise de l'entreprise Bohémienne Paris. Vous nous expliquerez pourquoi vous avez souhaité devenir chef d'entreprise, la présentation de votre marque et son concept. À vos côtés, Marc-Antoine Gendry. Bonjour Marc-Antoine.
Bonjour.
Merci également d'être parmi nous sur IDFM Radio.
Merci pour l'invitation.
Donc, vous êtes un futur aussi chef d'entreprise, futur mentoré. Vous nous direz si vous êtes je crois que vous êtes le cofondateur de le concept de Sergi.
Exactement.
Un projet de pépinière de plantes et fleurs comestibles en agriculture biologique.
Tout à fait.
Vous nous raconterez comment est né ce projet très tendance qui consiste à sortir des sentiers battus avec des plantes ornementales et comestibles.
Avec plaisir.
Et pour finir à vos côtés, Maxime Hanon. Bonjour Maxime.
Bonjour.
Également, merci d'être avec nous ce matin.
Merci.
Également futur mentoré, fondateur de la maison Hanon, spécialisée dans la pâtisserie fine et viennoiserie. Vous nous dévoilerez votre parcours et vos ambitions. Voilà, j'ai beaucoup bafouillé ce matin. Mais bon, c'est toujours compliqué pour moi au début. Alors, bienvenue à tous et merci d'être les invités en direct de ce nouveau numéro de l'économie en direct. Et tout de suite, voici l'instant saveur avec notre expert en plats gourmands et toujours délicieux, Bruno Vigoureux. Bonjour Bruno.
Bonjour Jacqueline, et puis bonjour à toutes et à tous, et puis surtout bonne fête, oui, bonne fête à toutes les amoureuses et à tous les amoureux. Bah oui, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui.
Alors, quelle recette avez-vous choisie pour nous aujourd'hui, précisément?
Alors, qu'est-ce qu'on prépare? Un bon restaurant ou une autre surprise? Est-ce que vous m'accordez une petite folie, Jacqueline ?
Allez, allons-y, soyons fous.
Tant mieux. Alors voilà, je ne sais pas trop comment vous présenter l'affaire. C'est une grande première pour moi, c'est pourquoi je suis tout tremblant devant vous comme un adolescent. Bon, je me lance et j'ai une déclaration à vous faire, Jacqueline. Oui, une déclaration. Vous savez que lorsque je viens à ce micro...
Heureusement que c'est pas filmé, sinon je te trouve...
Vous savez que lorsque je viens à ce micro le mardi matin, avec ma recette sous le bras, je l'ai toujours testé avant. D'ailleurs, vous l'avez dit à vos invités avant l'émission. C'est d'ailleurs la moindre des choses. Et là, cette fois, ce n'est pas le cas. Non. Non, ne le prenez pas mal, Jacqueline, je vous explique. Mon épouse a décidé du plat que je devais faire ce soir. Comme elle sait que je suis un formidable cuisinier, elle a bien raison. Non, je plaisante, je fais ce que je peux avec mes petits moyens. Donc, mon épouse veut que je lui fasse une blanquette de la mer épicée. Elle me l'a annoncé dimanche. Donc, pas le temps d'essayer la recette et il ne vous aura pas échappé que ce soir, c'est ce soir et donc je vais faire ce plat tout à l'heure. Autant vous dire que j'ai été confronté à un vrai cas de conscience. Que faire ? Dire que je l'ai essayé alors que c'était pas vrai ou vous dire la vérité, Jacqueline, en prenant l'énorme risque que vous soyez à jamais fâché contre moi ? Je taquine, vous savez bien. N'empêche que cette recette me tente beaucoup et on va donc partir un peu dans l'inconnu. C'est une recette pour 4 personnes, vous pouvez toujours garder le reste pour une autre soirée en amoureux. Et pour cela, il vous faut 8 langoustines, une demi-queue de lotte, 2 dos de cabillaud, une belle poignée de palourdes, 2 carottes, un blanc de poireau, un oignon, une gousse d'ail, 25 centilitres de vin blanc sec, 1 litre de fumée de poisson, un bouquet garni, une cuillère à soupe de farine, une cuillère à soupe rase de curry en poudre, une cuillère à café rase de piment d'Espelette, quelques petites pousses de coriandre, 50 grammes de beurre, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Alors on attaque. Dans un premier temps, vous mettez les palourdes à tremper pendant une heure dans de l'eau froide que vous changerez à peu près 2 ou 3 fois pour enlever le sable. Ensuite, vous pelez et ciselez l'oignon, vous pelez et écrasez la gousse d'ail, vous pelez et découpez les carottes en tronçons, c'est-à-dire un peu plus gros que des rondelles, hein, des petits morceaux de 4-5 cm de long, et vous découpez le blanc de poireau en tronçons également. Dans une cocotte, vous faites revenir l'oignon dans un peu d'huile d'olive jusqu'à ce qu'il devienne translucide. Puis, vous ajoutez les gousses d'ail, les carottes et le blanc de poireau et vous les faites suer sans coloration, c'est-à-dire à feu moyen tout en remuant. Versez ensuite le vin blanc et faites presque réduire à sec. Vous ajoutez le fumet de poisson et le bouquet garni, vous salez, poivrez et vous portez à ébullition. Maintenant, vous laissez mijoter à feu doux pendant 15 minutes. Pendant ce temps, vous retirez les têtes des langoustines, vous découpez la lotte et le cabillaud en tronçons et vous rincez les palourdes. Vous filtrez le bouillon et vous conservez uniquement les carottes que vous mettez de côté et vous jetez le reste. Dans la cocotte, vous faites fondre le beurre, vous ajoutez la farine et vous retirez du feu, très important. Vous remettez à feu doux et laissez torréfier 3 minutes. Vous versez un peu de bouillon et fouettez pour bien l'incorporer. Dès qu'il épaissit, vous ajoutez de nouveau du bouillon et procédez ainsi de suite jusqu'à totale incorporation du bouillon. Vous ajoutez le curry et le piment d'Espelette, vous assaisonnez et vous portez à frémissement. Vous plongez la lotte et le cabillaud dans le bouillon et vous faites mijoter 10 minutes. Vous pouvez maintenant ajouter les langoustines ainsi que les palourdes et vous prolongez la cuisson 5 minutes. Vous servez donc les fruits de mer et le poisson avec le bouillon bien chaud et parsemé de pousses de coriandre. Voilà. Je ne vais pas vous dire que c'est excellent, naturellement, puisque je n'ai pas testé cette recette, mais en tout cas, elle me plaît, c'est le genre de recette à en tomber amoureux ces 7 jours. Donc je vous promets que je vous dirai la prochaine fois si j'ai aimé ou pas. Alors Jacqueline, pas trop fâchée que je n'ai pas essayé cette recette avant ?
Mais je ne serai jamais fâchée avec vous, Bruno,
bon,
vous le savez bien.
Me voilà rassuré. Alors encore, bonne fête à toutes les amoureuses et à tous les amoureux. Au revoir et à très bientôt.
Oui, il faudra absolument nous rapporter le résultat de ce plat de fête.
Comptez sur moi.
Absolument. Et comme chaque mardi, pour nos auditeurs et auditrices, retrouvez les proportions et toutes les explications de notre expert pour refaire vous-même cette recette. Alors, on ne se voit pas la semaine prochaine puisqu'il y a une petite pause.
Non, puisque vous êtes en vacances.
Voilà.
Et moi, la semaine d'après, c'est moi qui serai avec mes petits-enfants.
Bon, donc début mars, si j'ai
absolument
bien calculé. Merci
Et je vous parlerai de cette recette.
Absolument. À bientôt.
À bientôt. Au revoir. Bonne émission.
Écoutez IDFM en DAB+, sur toute l'Île-de-France.
C'est l'économie en direct sur IDFM Radio et tout de suite, je m'adresse à vous, Fiona Lazare, donc présidente du CNLE, le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Mais avant d'aborder cette présidence, peut-être quelques mots sur les dernières élections législatives, puisque vous étiez députée de la 5e circonscription Argenteuil-Beson, Fiona.
Tout à fait, Jacqueline. Effectivement, j'ai eu l'honneur et le plaisir de représenter les Français à l'Assemblée nationale pendant 5 ans, et notamment particulièrement les Argenteuillais et les Besonnais. La vie politique est faite de haut et de bas. Malheureusement, la dernière élection ne m'a pas vue réélue. Ça n'empêche que je continue de me mobiliser pour des questions qui me sont chères. Les engagements qui étaient les miens lorsque j'étais députée restent des engagements personnels. Donc je poursuis ces engagements au travers du CNLE, donc le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Notamment, mais pas que, puisque ça c'est une mission qui est placée auprès de la Première Ministre à l'échelle nationale, mais également au niveau local. J'ai par exemple rejoint le conseil d'administration de l'ARS 95, donc l'association Agir pour la réinsertion sociale du Val-d'Oise, qui fait un travail formidable sur les questions à la fois d'insertion vers l'emploi, mais aussi d'accès au logement pour les personnes les plus précaires. Et donc voilà, ces engagements-là, ils me tiennent à cœur et je poursuis mon engagement et sur cette question. Et puis sur une deuxième thématique, on avait eu l'occasion d'en discuter la dernière fois que vous m'aviez invité ici, sur la question des droits des femmes, oui. Où là aussi je pense que nous avons encore beaucoup à faire. J'ai été vendredi dernier avec une association qui s'appelle Mamama, qui œuvre pour les jeunes mamans démunies et leurs bébés et leurs enfants, qui sont établis aujourd'hui à Saint-Denis et qui, avec des sages-femmes du Val-d'Oise, souhaiteraient pouvoir établir l'association dans le département, puisque dans le département aussi, nous avons des femmes, des jeunes mamans qui traversent la précarité. Et donc, avec ces sages-femmes, elles souhaiteraient pouvoir s'installer dans le département. Et donc, je leur ai fait rencontrer les députés actuels pour justement encourager cela. Donc voilà, des engagements que je continue d'avoir comme boussole et que je pour lesquels je continue à mon modeste niveau d'essayer de faire avancer.
Oui, en effet, il faudra nous présenter cette association, Mamama, si on peut lui donner un éclairage aussi très volontiers. Alors, vous l'avez dit justement, la politique est faite de victoires et de défaites. Il faut dire aussi, je reviens sur ces élections législatives, il y a eu un taux d'abstention inédit. Mais en revanche, vous avez un bilan dont vous vous félicitez.
Oui, je pense que je peux dire que j'ai un bilan de manière très modeste et humble. Oui. Mais quand je regarde dans le rétroviseur, à la fois sur les questions de lutte contre la pauvreté, là encore, je pense que j'ai réussi par mon travail à faire avancer un certain nombre de dossiers. Sur la question de la jeunesse, j'avais porté une proposition qui a été mise en œuvre pour lutter contre le décrochage scolaire, par exemple, avec l'obligation de formation jusqu'à 18 ans. Avant, vous aviez l'obligation d'instruction jusqu'à 16 ans et les gamins pouvaient arrêter l'école à 16 ans et être livrés à eux-mêmes, et on connaît le cercle vicieux qu'il peut y avoir derrière. Absolument. Avec cette obligation de formation, on a des jeunes qui sont suivis au moins jusqu'à leur majorité. Donc ça, pour moi, ce sont des choses qui permettent de faire avancer le schmilblick. Sur la question des droits des femmes, le bracelet anti-rapprochement qu'on a réussi à faire inscrire dans la loi et à mettre en application partout sur le territoire national, ça protège des femmes victimes de violences et ça les protège réellement. Là encore, il y a encore beaucoup de choses à faire. Oui. Mais les choses avancent et je pense avoir mis ma petite pierre pour cela. Et puis dernière chose, si je regarde dans le rétroviseur, c'est également ce que j'ai pu faire, pas seule bien sûr, mais en tout cas porter la voix d'un territoire, porter la voix d'Argenteuil et de Beson, qui est un territoire qui a des besoins, des très grands besoins. Et avoir réussi à débloquer plusieurs millions d'euros pour rénover totalement l'hôpital d'Argenteuil, je crois que c'est une très belle victoire. Avoir réussi également à avoir la plus grande cité éducative de France à Argenteuil, pour que tous les enfants du plus jeune âge jusqu'à 18 ans aient des conditions d'apprentissage qui soient les meilleures. Je pense que c'est une belle victoire également. Et puis un dernier exemple avec les effectifs de police supplémentaires qu'on a pu obtenir. Voilà, je pense que ce sont des résultats concrets qui améliorent la vie des Argenteuillais et des Besonnais. Mais il y a encore du pain sur la planche.
Oui, et on l'a compris, je pense qu'on devrait vous retrouver peut-être bientôt en politique probablement. Fiona, avez-vous retrouvé vos responsabilités professionnelles?
Oui, alors tout à fait. Donc je vous le disais, je ne me suis pas ennuyée ces derniers mois avec mon engagement au CNLE et dans diverses associations. Je reprends un poste début mars dans une très belle entreprise qui porte des valeurs que je partage, et je serai en charge des affaires publiques. Donc je reste pas très loin quand même du milieu qui m'intéresse, et je suis très heureuse de rejoindre une entreprise qui, voilà, porte des valeurs et qui est engagée sur la question écologique. Donc, hâte d'y retourner.
Alors, donc, revenons à votre poste de présidente de CNLE. Juste pour rappel, dans les années 70, la pauvreté concernait d'abord les personnes âgées. Aujourd'hui, elle touche des jeunes, parfois actifs, des mineurs vivant dans des ménages pauvres. La pauvreté va de pair avec des formes d'exclusion sociale et transformation globale de la société. Elle est aussi souvent liée au chômage, donc facteur principal, mais aussi augmentation des familles monoparentales.
Tout à fait.
Et le CNLE, avec ses 64 membres, s'ils sont toujours 64, est un acteur important de cette lutte contre la pauvreté.
Tout à fait.
Je vous laisse nous exposer.
Oui, alors le CNLE, donc le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Donc c'est un nom à rallonge, mais qui porte en lui, donc qui existe depuis la création du RMI, et en fait qui vise à conseiller les pouvoirs publics, le gouvernement, sur les questions de lutte contre la pauvreté. Le CNLE a une particularité, vous le disiez, il y a 64 membres. Il a une particularité depuis que je le préside, suite à la décision du président de la République de mettre aux manettes, quelque part, les personnes concernées, oui, pour pouvoir témoigner, mais pas seulement témoigner, mais être porteuse de propositions. Donc il y a eu ce qu'on a appelé le choc de participation depuis 2020. Et donc désormais, ce CNLE est composé de 50% de personnes concernées. Donc 50%, donc 32 personnes sont des personnes qui connaissent la pauvreté, qui ont l'expérience de la pauvreté. Et les 32 autres personnes sont réparties en différents collèges. Donc on a des représentants, des têtes de réseau associatif national, des syndicats, des collectivités, et puis on a des personnes qualifiées. À côté de cela, on a un comité scientifique qui est en fait la transformation de ce qui s'appelait auparavant l'ONPES, qui était l'Observatoire National de la Pauvreté et de l'Exclusion Sociale. Cette ONPES a été quelque part absorbée par le CNLE, et donc nous avons un comité scientifique avec des sociologues, des chercheurs, des économistes spécialisés sur ces questions de pauvreté. On a un géographe également qui nous apporte un éclairage très intéressant sur les questions de territorialité.
Oui, oui.
Et donc on a ce comité scientifique qui contribue à nos travaux. Donc le CNLE peut soit être saisi par le gouvernement, on peut être saisi sur une mission particulière, mais on peut également s'auto-saisir. Je vous donne un exemple. Pendant la crise sanitaire, au moment du confinement, j'ai dit tout de suite, il faut qu'on se mette au travail à distance avec les moyens du bord, mais il faut qu'on se mette au travail parce que on peut imaginer que les premières personnes qui vont souffrir de la situation, ce sont les personnes pauvres, les personnes précaires. Mmh. Et donc tout de suite, en septembre 2020, on a remis 12 propositions au Premier ministre pour prendre en considération les personnes précaires et faire en sorte qu'elles ne soient pas trop impactées par cette crise. Et donc, on a fait 12 propositions. Et de ces 12 propositions, si on regarde aujourd'hui le bilan, eh bien, plus de la moitié ont été mises en application, mises en œuvre par le gouvernement, parce que nous les avons faites. Et puis, il y a eu tout un travail, quelque part, de lobbying, de portage de ces idées, pour faire en sorte que, par exemple, les plus précaires puissent avoir accès à des masques, à la vaccination, à des politiques d'aller vers, mais également, par exemple, pour la complémentaire santé solidaire, qu'il n'y ait plus de démarche à faire pour pouvoir l'obtenir, et qu'à partir du moment où on tombe au RSA. C'est rarement un choix, hein, oui, malgré ce qu'on peut entendre dans le débat public régulièrement. C'est rarement un choix, même c'est jamais un choix, et donc leur permettre d'avoir une couverture maladie qui leur permette d'accéder aux soins les plus nécessaires. Donc voilà un exemple de travaux que nous avons produits et qui ont eu un impact finalement sur les politiques de solidarité dans notre pays. Et donc c'était une proposition que j'ai sollicitée, un travail que j'ai sollicité auprès des membres du Conseil. Et à la suite de cela, le Premier ministre nous a missionné et nous a demandé de mettre en place un baromètre de suivi qualitatif de la pauvreté pour essayer de prendre le pouls en fait sur le terrain avec des indicateurs qualitatifs. Encore une fois, on n'est pas sur les chiffres du chômage ou du RSA, mais vraiment qualitatif,
plus point d'alerte sur un ressenti.
Donc on va s'adresser à la fois aux associations, aux assistantes sociales dans les hôpitaux, aux médiateurs de l'énergie, enfin voilà tout un tas d'acteurs qui œuvrent et qui peuvent être confrontés à des populations précarisées pour essayer d'alerter le gouvernement. Donc là, on attend la deuxième salve de résultats qui va être très intéressante, je pense. On n'a pas encore les résultats, donc je ne m'avance pas. Mais quand on voit l'inflation ces derniers mois...
Absolument. Le pouvoir d'achat, crise énergétique...
Exactement. Mmh. On peut imaginer la situation sociale telle qu'elle est, mais avec ces indicateurs, on va pouvoir la matérialiser. Et donc, j'espère pouvoir revenir à votre micro pour vous parler... De ces éléments. Et puis peut-être un dernier point, donc on a eu également à travailler sur trois grandes thématiques, la question de l'accès au logement, la question de l'égalité des chances qui m'est très chère, et la question de l'insertion sociale et professionnelle. Voilà les trois grands chantiers sur lesquels nous avons planché l'année dernière, et nous sommes aujourd'hui en plein travail, en pleine réflexion, en pleine organisation de notre pensée sur la question de la transition écologique. Comment faire de la transition écologique un levier d'inclusion ? Comment faire en sorte que la transition écologique ne vienne pas accroître les inégalités ? Parce que manger bio, ça peut coûter plus cher. Parce que chauffer de manière écologique, ça peut coûter plus cher. Enfin voilà, tout ça, les questions de transport, les questions d'énergie, les questions d'isolation des bâtiments, etc., etc. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas perdre une partie de nos concitoyens ? Donc voilà, on a fait un paquet d'auditions l'année dernière. Et maintenant, on est au travail pour faire des propositions au gouvernement pour faire en sorte que cette transition, elle soit solidaire, elle soit partagée et qu'on ne laisse personne au bord du chemin.
Voilà, et on a bien compris votre engagement qui est toujours intact. Hein, j'avais dû le dire la dernière fois, mais voilà, vous parlez avec véhémence et vous défendez bien. On sent que ça fait partie de votre ADN. Vous disiez que vous êtes sous l'autorité de la Première ministre et elle a rappelé son ambition pour l'égalité des chances et a notamment annoncé le prochain lancement d'un nouveau plan de lutte contre les discriminations. Donc, je pense que le CNLE sera directement concerné.
Tout à fait. On sera concerné d'une manière ou d'une autre. On a été sollicité par pas plus tard que la semaine dernière, on avait une réunion avec la directrice de cabinet du ministre des Solidarités sur la question de la stigmatisation, parce que on se rend compte que les personnes pauvres sont très largement stigmatisées dans le débat public. J'en disais quelques mots tout à l'heure sur les bénéficiaires du RSA notamment, mais pas que. Par un certain nombre de services publics, par exemple, qui vont pouvoir considérer que parce que vous êtes pauvre, vous n'êtes pas capable, ou qui vont préjuger de votre situation parce que vous traversez une période difficile. Donc on est en train de faire ce travail-là d'identification des points qui pourraient être améliorés pour que les personnes pauvres ne vivent plus la double peine, quelque part, à la fois de devoir surmonter la période de pauvreté qu'elles traversent, mais aussi le regard des gens, le regard des pouvoirs publics, le regard des recruteurs parfois. Enfin voilà, qu'elles ne subissent plus cette double peine. Et donc, on est missionné sur cette thématique-là. Et donc, typiquement, c'est une des illustrations de cette lutte contre les discriminations que vous évoquez.
Fiona Lazar, j'ai pu voir aussi qu'en novembre, vous avez remis un nouveau rapport à M. Papendaye, le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Peut-être un mot de ce rapport.
Tout à fait. Donc j'évoquais les trois rapports qu'on a produits l'année dernière, et donc celui sur l'égalité des chances en est un. Avec un axe très important sur la question de l'égalité à l'école. L'une des particularités, je vous le disais, du CNLE, c'est que 50% de ses membres sont des personnes directement
en situation de précarité.
Et donc ce groupe de travail, il a été piloté par une personne en situation de précarité. Et ça, c'est une nouvelle approche qui est très intéressante. Et en fait, c'est par son expérience, par son travail également avec ses pairs, qu'elles ont identifié un certain nombre de difficultés auxquelles elles font face, auxquelles leurs enfants font face à l'école, pour pouvoir faire des propositions au ministre. Donc très axé sur la question de l'école, et notamment la question de l'inclusion et du traitement et de l'accompagnement des enfants en situation de handicap ou porteurs de pathologies qui sont aujourd'hui, d'après ces propositions, insuffisamment adapté, insuffisamment développé. On voit qu'il y a des inégalités en fonction des territoires. On voit que le résultat aujourd'hui n'est pas satisfaisant. Et donc, il y a tout un tas de propositions pour l'inclusion de ces enfants. Et je crois que c'est une des que le ministre l'a compris. Donc, il nous a reçus. Il nous a reçus au ministère pour qu'on lui présente ses propositions. Voilà, je pense que les choses vont évoluer, qu'il y a une volonté de faire bouger les lignes. Peut-être un deuxième exemple également. Alors moi, je suis revenue à la charge sur l'obligation de formation que j'évoquais tout à l'heure, puisqu'elle a été votée il y a 2 ou 3 ans maintenant, et qu'aujourd'hui, elle est mise en application, mais je pense qu'il faut aller plus vite, aller plus loin pour s'assurer que tous ces jeunes entre 16 et 18 ans soient effectivement suivis et qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette. Parce que parfois, vous avez des temps de latence, des temps de traitement, de passation de dossiers, etc. Enfin, on sait comment ça se passe, qui font qu'on perd les jeunes. Et à partir du moment où on les perd, c'est très difficile de les rattraper. Donc voilà un autre exemple qu'on a pu évoquer. Et puis je pense à une dernière chose qui était dans ce rapport, c'est la question des enfants étrangers, des enfants dont les parents sont en situation administrative, en attente de régularisation ou autre, qui ont des difficultés à être scolarisés, parfois, notamment les jeunes qui approchent de la majorité qui sont parfois des jeunes mineurs isolés, qui sont parfois installés dans des hôtels et qui n'ont pas accès à la scolarité. La scolarité, l'instruction est obligatoire jusqu'à 16 ans, la formation jusqu'à 18. Donc, elle doit pouvoir concerner tous les enfants qui sont sur le territoire.
Très bien. Mais écoutez, on compte sur vous, Fiona Lazare, mais je crois que on n'a pas de souci à se faire pour le combat que vous menez. J'ai relevé une phrase de Véronique Devise, présidente du Secours catholique, qui dit que s'il y a une volonté politique, on peut vraiment éradiquer la pauvreté.
On peut éradiquer la pauvreté. On doit éradiquer la pauvreté. Je crois que ça doit être l'un des objectifs premiers de la politique, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse vivre dignement dans notre pays. Ça passe à la fois par les questions d'accès à l'emploi pour tous, de lutte contre les discriminations, vous l'évoquiez, de lutte contre le sans-abrisme. Aujourd'hui, on a 200 000 places d'hébergement d'urgence qui sont ouvertes. C'est un record, il n'y en a jamais eu autant. C'est 5,7 millions d'euros qui sont mis chaque jour pour pouvoir mettre à l'abri les personnes. Mais ça n'est pas satisfaisant. L'hébergement d'urgence ne doit être que de l'urgence et pas de l'installation. Donc il faut faire en sorte à la fois de développer du logement. Il y a eu la politique du logement d'abord qui a très bien marché. Donc là, il y a un deuxième plan qui arrive pour faire en sorte que on passe très rapidement de l'hébergement d'urgence à l'accès à un logement social ou un logement dans le privé, mais en tout cas un logement et non pas un hébergement. Et puis derrière, ce sont évidemment les politiques d'accès à l'emploi, parce que c'est là la meilleure façon de sortir de la pauvreté durablement, c'est d'accéder à l'emploi par des politiques d'insertion. Les chiffres du chômage reculent. C'est une bonne nouvelle malgré les crises successives que l'on traverse. Encore le dernier trimestre 2022 dont on vient d'avoir les chiffres, il y a encore une très légère baisse. En tout cas, il n'y a pas de recul. Ce sont des bonnes nouvelles. On est passé, on a perdu 2 points de chômage ces dernières années dans le Val d'Oise. Donc, je pense qu'il faut qu'on continue comme ça, qu'on intensifie. Et puis, encore une fois, donc ces politiques d'accès à l'emploi sont essentielles. Mais ce qui marche également, et on l'a vu avec la crise du Covid, c'est d'être capable d'avoir des politiques de dépannage quelque part, parce qu'il y a beaucoup de pauvreté qui est conjoncturelle. Mmh. Donc la crise Covid, toutes les aides d'urgence qui ont été mises en œuvre ont permis de contenir la pauvreté. On n'a pas eu un boom de la pauvreté pendant la crise Covid parce qu'il y a eu tout un tas d'aides exceptionnelles qui ont été mises en œuvre pour permettre aux gens de tenir. Et en fait, c'est comme ça qu'on arrive à contenir la pauvreté, parce que plus les gens dégringolent, plus c'est difficile de les faire sortir. Et donc, voilà, maintenir ces ambitions. Il y a eu, par exemple, récemment une hausse des minima sociaux. C'est essentiel quand on voit l'inflation aujourd'hui. Le chèque énergie qui a été mis en place également pour les ménages modestes, c'est essentiel. Sinon, les gens ne peuvent juste plus se chauffer. Mmh. Et ça concerne des millions de personnes, parfois des personnes retraitées qui ont travaillé toute leur vie et qui n'arrivaient plus à joindre les deux bouts. Et donc ces aides conjoncturelles, elles permettent d'éviter un boom de la pauvreté en ces périodes de crise.
Oui, et par exemple, ces personnes âgées qui ne peuvent plus se chauffer, ça entraîne de l'exclusion parce qu'elles ne peuvent plus recevoir leurs enfants, parce que le logement... Enfin, c'est, voilà, il y a tout un cercle vicieux qui se met en place.
Tout à fait. Vous avez tout à fait raison de le rappeler. Hein. Le CNLE, c'est lutte contre l'exclusion et la pauvreté. Mm-hmm. Parce que l'exclusion sociale, parce que ça va de pair. On avait, sur la question de l'égalité des chances, par exemple, qu'on évoquait tout à l'heure, une professionnelle qui nous expliquait que les enfants de familles pauvres n'allaient pas aux anniversaires de leurs petits camarades parce qu'à chaque fois c'est 15-20 euros par anniversaire, et en fait un cadeau c'est potentiellement 2 jours de course pour le foyer. Donc voilà, cette question de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion sociale et de la pauvreté, elle va complètement de pair, et donc il faut poursuivre sans relâche ce combat.
Merci infiniment, Fiona Lazar. Alors, nous ne le voyons pas puisque on n'est pas filmé, mais je peux vous dire que mes autres invités ont complètement approuvé vos propos avec des signes de tête au fur et à mesure que vous vous témoignez. Merci infiniment. Donc, je rappelle que vous êtes la présidente du Conseil national des luttes contre la pauvreté et l'exclusion. Donc, un grand merci pour ces échanges. Et puis, j'ai retenu que vous reviendrez pour nous tenir au courant
avec
des rapports
plaisir.
Que vous allez remettre. Merci beaucoup.
Merci à vous, Jacqueline.
Et je vous invite à découvrir nos jeunes créateurs d'entreprises dans quelques minutes. On marque une pause avant de retrouver, pour commencer, Amel Guédoum et puis ses invités. À tout de suite. Viens, je t'emmène, France Gall. Ce matin, on vous met que des titres pour la Saint-Valentin. Si vous nous rejoignez, c'est l'économie en direct et c'est sur IDFM Radio, en FM, DAB+, et sur notre appli. Le thème de ce jour, la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, les bourses de l'entrepreneuriat engagé et le mentorat, avec à mes côtés Fiona Lazare, présidente du CNLE, Amel Guédoum, responsable du pôle partenaire communication événements chez Initiative 95-78, Linda Nguyen, co-créatrice de l'entreprise Bohémienne Paris, Marc-Antoine Gendry, co-fondateur de Le Concept Sergi, Maxime Hanon, pâtissier chef d'entreprise, fondateur de la maison Hanon, et donc trois candidats qui ont bénéficié de la bourse et futurs mentorés. Amel Guédoum, en mars 2021, le président Emmanuel Macron annonçait le plan Un jeune, un mentor, avec pour ambition d'augmenter le nombre de mentorés de 25 000 à l'époque à 200 000 en 2022. Alors, nous l'avons dit en début d'émission, les bourses et le mentorat sont des moyens pour certains jeunes, parfois sans réseau ou sans appui, de faciliter leur insertion professionnelle. Vous-même, qu'est-ce que vous voulez nous dire sur ces bourses et sur ce mentorat, Amel Guédoum?
Bah, écoutez, en tout cas, merci déjà de me recevoir et de recevoir nos jeunes entrepreneurs aujourd'hui à la radio. C'est toujours un plaisir de venir chez IDFM.
Vous savez que c'est partagé.
Et donc effectivement, alors Initiative 95-78, nous on a vraiment des valeurs de solidarité, hein, ça va aussi en lien avec tout ce qu'on a entendu ce matin avec Fiona Lazare. Et c'est vrai que nous, notre objectif, on a toujours accompagné les personnes qui n'avaient pas forcément accès à l'entrepreneuriat, comme les demandeurs d'emploi, les personnes issues des quartiers politiques de la ville, les jeunes. Et nous aujourd'hui, nos valeurs de solidarité qui ont toujours été ces valeurs portées par l'association et d'accompagner ces publics pour leur permettre effectivement de créer des entreprises, mais des entreprises engagées. Parce qu'aujourd'hui, on a vu avec Fiona ce matin toutes les inégalités, tout ce qui est lié à l'environnement, à l'inclusion. Et aujourd'hui, on est tous concernés par ces sujets. Et aujourd'hui, c'est les jeunes qui vont pouvoir créer une société beaucoup plus inclusive, beaucoup plus solidaire, avec un impact social et environnemental. Et on doit aussi être acteur. Et aujourd'hui, je pense que la jeunesse française est aussi acteur de ce changement. Et c'est pourquoi on a accompagné ces jeunes dans le cadre de la Bourse de l'entrepreneur engagé, qui est un projet en partenariat avec le Conseil départemental du Val-d'Oise, qui œuvre aussi énormément sur les sujets de la jeunesse, hein, puisqu'ils mettent en place pas mal de choses et de dispositifs pour accompagner les jeunes, notamment avec le dispositif EVA et avec le département du Val-d'Oise. Voilà, on a mis en place ce projet qui est de lancer un appel à candidature pour des jeunes de moins de 30 ans avec un projet, avec un impact social et environnemental, et de les accompagner dans la réalisation et la création de ce projet. Et bien sûr, pour pouvoir pérenniser ces entreprises, on sait que ces jeunes ont besoin d'accompagnement, mais ils ont aussi besoin d'être mentorés, parce que le mentorat est une solution, hein, vous l'avez dit, par rapport à ce qui a été dit sur le mentorat. C'est la meilleure solution de pouvoir effectivement partager son expérience, partager son savoir-faire, son savoir-être. Et aujourd'hui, on est vraiment sur de l'échange. Et je pense qu'aujourd'hui, les jeunes générations ont aussi besoin d'être soutenues et accompagnées par des mentors, que ce soit des cadres dirigeants, des dirigeants d'entreprise, qui sont peut-être à la retraite. Mais on a besoin d'avoir cette passation et ce partage d'expérience qui, je pense, est un levier fondamental. Et puis, le mentorat est aussi une action de solidarité, une voie de solidarité pour ces jeunes entrepreneurs.
Oui, on peut même dire que c'est peut-être un outil même pour la réussite et l'entraide de ces jeunes, mais aussi des femmes, hein, puisque je sais que vous favorisez très, très largement l'entrepreneuriat féminin. Comment s'assurer que la relation puisse fonctionner entre mentor et mentoré, selon vous?
Alors déjà, c'est une relation de confiance. C'est pour ça que nous, en tout cas, Initiative 95, notre objectif aujourd'hui est de recruter un maximum de mentor, parce qu'on a besoin, voilà, d'avoir un vivier de mentors qui vont s'impliquer pour soutenir ces jeunes entrepreneurs. Donc on va effectivement les sélectionner, identifier avec eux quelles sont leurs compétences, quel est aussi leur savoir-être, puisque le mentorat, avant tout, c'est une question de relations humaines. Ils sont pas là pour remplacer les structures d'accompagnement ou développer l'entreprise. On est vraiment sur un soutien moral, on est sur une personne qui va pouvoir partager son expérience, qui va pouvoir aussi soutenir. Donc ce qui va être important, effectivement, ça va être la relation de confiance qui va se bâtir dès le début, pour pouvoir faire grandir, que ce soit aussi bien l'entreprise mais aussi le jeune, dans ses futures fonctions de chef d'entreprise.
Complètement. C'est un moyen de s'enrichir d'une expérience humaine et solidaire, hein, vous l'avez dit, transmettre des connaissances, des expériences, des valeurs. Aujourd'hui, vous lancez un appel à toutes les personnes qui souhaiteraient devenir mentors.
Oui, on recherche des mentors. Alors, avec un profil, cadre dirigeant, ou chef d'entreprise en activité, chef d'entreprise aussi peut-être à la retraite, qui aurait peut-être quelques heures par mois, parce que le mentorat, hein, parfois ça peut faire peur parce qu'on se dit ah mais j'ai déjà une activité où j'ai pas le temps, c'est 3 à 4 heures par mois, on est sur des échanges par téléphone, par mail,
par visio aussi.
Donc vraiment aujourd'hui je pense que tout le monde peut s'adapter à ce genre à ce genre de mentorat, et nous effectivement on cherche vraiment des mentors. Donc si jamais vous avez envie de vous investir pour accompagner de jeunes porteurs de projets dans différentes compétences, hein, parce que le mentorat, c'est pas obligatoirement avoir une expérience entrepreneuriale.
Non, c'est ça. C'est avoir du bon sens.
Du bon sens, et puis d'avoir eu des compétences dans n'importe quel domaine, puisque cet appui, comme je le répète, hein, on est vraiment sur de l'appui moral, du soutien. On demande pas une expertise pointue sur le domaine de l'entrepreneuriat ou sur la finance.
C'est pouvoir échanger sur sa propre expérience, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, absolument. Ah oui, donner un coup de pouce à tous ces jeunes créateurs d'entreprise.
Tout à fait.
Merci Amel, on a bien compris que le mentorat est aujourd'hui une composante essentielle, hein, de l'action d'Initiative 95. Alors je vous reviendrai, de toute façon vous pourrez intervenir avec nos co-créateurs.
J'ai pris un abonnement chez IDFM.
Mais on va leur les laisser témoigner tout
exactement
de suite. Merci. On fait juste une petite pause, Francky, s'il te plaît.
Écoutez IDFM en DAB+, sur toute l'Île-de-France.
Si vous nous rejoignez, c'est l'économie en direct sur IDFM Radio et je suis toujours en compagnie de Fiona Lazar, Amel Guédoum, Linda Nguyen, Marc-Antoine Gendry, Maxime Hanon. Linda Nguyen, je commence avec vous en tant que co-créatrice d'une entreprise. Quelques mots sur votre parcours, Linda.
Oui, alors du coup, moi c'est Linda Nguyen, j'ai 27 ans et je suis la cofondatrice de la marque Bohemian Paris, qui se veut être une marque de maquillage nomade, éco-responsable et rechargeable. Pour vous parler un peu de mon parcours, donc moi j'étais anciennement chef de produit dans le secteur des cosmétiques, où j'ai eu la chance en fait de travailler dans des grands groupes et pour de très belles marques au service marketing développement. C'est un métier qui m'a toujours passionnée parce qu'il est très créatif, mais il y a à peu près un an en fait j'ai décidé de quitter mon poste pour me lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Et j'ai embarqué avec moi dans l'aventure du coup mon associé qui lui est designer et aussi mon fiancé.
Ah, très bien, très bien. Et alors, pourquoi ce goût de devenir chef d'entreprise ?
Alors, c'est vraiment, du coup, en fait, la volonté, c'était vraiment de révolutionner, en fait, les modes de consommation dans les cosmétiques vers une beauté, en fait, plus engagée. L'idée, nous, c'est qu'on souhaite, en fait, faciliter le quotidien des femmes actives pour leur permettre des remises en beauté express quand elles ont, en fait, un agenda chargé. Et en gros, l'idée du concept, c'est qu'on a, en fait, imaginé une innovation d'usage censée apporter praticité, gain de temps et gain de place dans le sac à main des femmes, mais aussi lutter contre le gaspillage.
Oui, on est tout à fait dans la logique du développement durable et puis de l'écologie. Hein, on a bien compris. Les cosmétiques, c'est quand même un domaine qui nécessite pas mal de fonds de roulement importants, beaucoup de R&D. Comment solutionnez-vous cette problématique?
Alors c'est vrai que c'est des investissements de base qui sont très très coûteux, notamment pour les développements de formules où il y a vraiment un coût de démarrage pour vraiment développer des formules qualitatives. Ouais. Pour ça, on passe en fait par un laboratoire qui est expert en formulation, qui nous formulera toutes nos formules parce qu'on a un cahier des charges vraiment très strict où on souhaite avoir des formules hautement naturelles avec aussi des bénéfices soins et surtout des formules clean, parce que du coup, enfin, une des grosses problématiques dans le domaine des cosmétiques, c'est le gaspillage, comme je l'ai dit, mais aussi la formulation. De plus en plus de consommatrices, en fait, sont très méfiantes au niveau des formules qu'on peut avoir dans les cosmétiques, parce qu'il y a des actifs comme des comme des parabènes, des ingrédients issus de la pétrochimie ou même des perturbateurs endocriniens qui, en fait, ont été pointés du doigt. Et c'est pour ça qu'on souhaite vraiment, faire un gros travail pour apporter des formules qui soit vraiment safe et clean.
Oui. Et alors, vous allez commencer à vous parler surtout de maquillage, c'est-à-dire ça ne va pas être forcément des crèmes de soins, c'est plutôt le maquillage qui est votre fer de lance.
C'est ça, c'est notre fer de lance. On s'attaque plutôt au maquillage, mais avec une innovation, c'est qu'en fait on souhaite avoir du maquillage, mais au bénéfice soin, en fait avoir des actifs qui vont agir pour embellir la peau, enfin comme l'acide hyaluronique, des différentes huiles de maracuja, l'huile d'argan par exemple. Enfin vraiment avoir un gros travail au niveau
des produits naturels.
C'est ça, exactement. Et pour parler rapidement du principe, c'est qu'en fait on souhaite avoir un écrin qui soit éco-responsable, fait avec des matériaux nobles et en fait du coup on l'a vraiment pensé comme ça avec mon associé, parce que du coup c'est un design qu'on a imaginé dans notre tête et qu'on a travaillé de A à Z pour apporter vraiment un maximum de praticité. Et l'idée, c'est de du coup développer en parallèle ces gammes de recharge essentielles qu'on viendrait insérer dans son écrin pour avoir ces essentiels partout à portée de main.
Déjà, on n'a plus à racheter le support pour le maquillage.
C'est ouais, ça, exactement.
C'est vrai que ce serait une vraie source d'économie en termes d'éco-responsabilité. Et là, aujourd'hui, vous en êtes où aujourd'hui?
Alors, du coup, on vient tout juste de finir le parcours de coaching, du coup, dans le cadre de la bourse de l'entrepreneuriat engagé. Donc là, en fait, je suis en train de travailler mes formules. Enfin, on a réfléchi un peu. Enfin, on a finalisé le concept, réfléchi à comment allait s'organiser ce lancement de marque. Et là, du coup, dans les prochains mois, je vais passer à l'action. En immatriculant vraiment ma société et du coup en travaillant pour pouvoir permettre d'industrialiser en fait le concept qu'on a imaginé avec mon associé et qu'on a prototypé chez nous, dans notre tête.
Donc aujourd'hui, votre besoin, c'est de trouver les bons partenaires pour cette immatriculation et puis pour l'industrialisation.
C'est ça, effectivement. Et avec une vraie volonté, du coup, de trouver des partenaires locaux, parce que la volonté, c'est de valoriser, du coup, le savoir-faire français, mais aussi, du coup, de favoriser les circuits courts.
Bien sûr, bien sûr. Alors, vous avez une actualité à nous annoncer? Vous allez créer votre page Instagram?
C'est ça, on vient tout juste de la créer et on a publié notre premier post hier, parce qu'en fait on a pas mal de demandes. Enfin, les personnes avec qui du coup je parle du projet à chaque fois me disent qu'ils veulent en savoir un peu plus. Pour l'instant, on avait gardé un peu le projet secret, mais on a décidé du coup de créer notre page
Instagram. Communiquer.
C'est ça, exactement, oui. Pour partager de l'actualité et en découvrir un peu plus sur la marque. Donc si ça vous dit d'en savoir un peu plus, je vous invite à nous suivre sur la page Instagram Bohémienne Paris.
Très bien, donc voilà, Bohémienne Paris. Et les premiers produits que vous souhaitez créer, ce sera quoi? Ce sera du fond de teint, des rouges à lèvres pour les yeux, c'est quoi?
Alors, comme je disais,
si c'est pas indiscret.
Ah non, pas du tout. Alors, c'est tous les essentiels de maquillage, c'est-à-dire anti-cerne, mascara, et on souhaite aussi justement favoriser des produits hybrides 3 en 1 pour éviter justement d'importer trop de produits avec soi. Par exemple, un rouge à lèvres qui pourrait permettre d'être appliqué sur les yeux comme fard à paupières ou aussi sur les joues comme fard à joues.
Ah oui, c'est une très bonne idée. Merci beaucoup, Linda Nguyen. On vous souhaite toute la réussite dans votre entreprise et puis à bientôt sur Instagram, alors.
C'est ça, merci beaucoup.
On marque une pause et on se retrouve tout de suite après avec nos deux autres co-créateurs. À tout de suite.
Tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été et que ton oreiller ressemble au champ de blé. Quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes, des forêts. Se fait douce quand ton corps se fait dur, quand le ciel dans tes yeux d'un seul coup n'est plus pur, quand tes mains voudraient bien, quand tes doigts n'osent pas, quand ta pudeur dit non d'une toute petite voix. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Sens plus chatte et que tu deviens chienne et qu'à l'appel du loup tu brises enfin tes chaînes.
IDFM en DAB+, sur toute l'île de France.
C'est toujours l'économie en direct sur IDFM Radio et ce matin, je suis en compagnie de Fiona Lazar, présidente du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, Amel Guédoum, responsable du pôle partenaire communication événement chez Initiative 95-78, Linda Nguyen, co-créatrice de l'entreprise Bohémienne Paris, Marc-Antoine Gendry, fondateur de Le Concept Sergi, et Maxime Hanon, pâtissier chef d'entreprise, fondateur de la maison Hanon, et tous les trois ayant bénéficié d'une bourse de l'entrepreneuriat engagé et futur mentoré. On enchaîne avec vous, Marc-Antoine Gendry. Alors, Marc-Antoine, vous possédez une licence d'économie et gestion, plus un M1 analyse économique de l'Université de Cergy-Pontoise. On est très loin de l'agriculture biologique, Marc-Antoine.
Oui, alors pendant mes études, je me suis quand même rendu compte que finalement la plupart des business venaient de la nature. Aujourd'hui, les questions de l'énergie et des matières premières elles reviennent beaucoup sur la table. Et donc j'ai essayé de m'orienter sur ces questions-là et voilà, je suis tombé dans l'agronomie, la botanique et toutes ces questions-là. Voilà, ça m'a passionné.
Vous êtes passionné.
Et voilà, ce projet est né il y a quelques années.
Donc vous avez repris des études. Comment avez-vous fait pour
Alors
vous
là, cette année, il y a une formation qui. Voilà, j'ai pas fini la formation puisque j'en ai besoin pour avoir le droit, la capacité agricole, donc de droit de vendre des légumes.
C'est ça. Oui, vous devez être certifié quelque part.
C'est ça.
Donc l'agriculture biologique et les produits comestibles, enfin les fleurs comestibles, hein, puisque dans la nature il y a beaucoup de produits comestibles, bien sûr. C'est une vraie tendance qui se retrouve de plus en plus dans nos assiettes. C'est ça qui vous a séduit?
Oui, alors en fait pendant mes études je travaillais en restauration et puis quand je travaillais en tant que barman, on faisait des cocktails avec des fleurs comestibles et puis c'est là que l'idée de les produire localement, sans plastique, voilà, ça a commencé à germer en moi cette idée et voilà, je me suis intéressé à la multiplication végétale, donc de que ça soit les arbres fruitiers ou les semences reproductibles, voilà, les plantes aromatiques, médicinales et notamment les fleurs comestibles.
Votre entreprise, le concept Cergy, il faut que je précise, c'est concept avec un K. Hein, donc, elle va se situer où cette entreprise?
Alors, la pépinière, je veux l'implanter dans le Vexin. Alors,
oui.
Voilà, il y a cette volonté de s'implanter sur le territoire, puisque c'est un territoire que je connais assez bien et sur lequel j'ai rencontré un grand nombre d'acteurs dans les dernières années. Donc voilà, c'est vraiment dans le Vexin
que vous allez vous installer. Le propre d'une pépinière, c'est que c'est quand même, enfin, la nature, elle prend son temps pour produire ces éléments. Vous avez pris en compte ce facteur temps?
Absolument, et je pense que là, c'est vraiment la question qui est fondamentale. Je pense qu'aujourd'hui, on est confronté à quand même une situation qui est une urgence, et pas que au niveau énergétique, mais voilà, surtout au niveau climatique. Et cette urgence, elle impose une temporalité qui est assez particulière. Donc de fait, j'ai commencé en fait à faire un tas de recherches, d'expérimentations et de recherche et développement depuis plusieurs années, de manière à avoir un modèle à la fois productif et résilient et voilà qui permette à la fois une certaine sécurité alimentaire tout en permettant de la pédagogie, voilà, il y a cette idée que il y a énormément d'impact positif
qui sont à vos, enfin vous avez beaucoup d'arc de cordes à votre arc, pardon. Alors vos besoins aujourd'hui, Marc-Antoine, c'est un financement.
Oui, alors c'est principalement autour de la question des financements. Je pense que la question environnementale, elle est clairement en train d'émerger. Je veux dire, les volontés politiques commencent à apparaître et voilà. Je pense qu'il y a énormément à faire dans ces secteurs-là, la transition écologique et voilà. On parlait tout à l'heure de solidarité et d'exclusion. Voilà, je pense qu'il y a tout un tas. Enfin, il y a une quantité considérable d'emplois à créer dans des choses qui sont durables et voilà. Il y a des secteurs comme celui de la transition sur lesquels voilà, je pense que les solutions se trouvent là et il va falloir investir là-dedans et donc voilà, il y a une partie des financements qui est en train d'arriver. On essaye quand même d'avoir un grand nombre de partenaires voilà pour nous soutenir puisque la tâche est quand même considérable.
Oui.
Et les aléas nombreux, oui.
Mais votre projet séduit quand vous l'exposez.
Oui, je vois bien que ça, que ça provoque un peu de voilà de ferveur, d'enthousiasme. Je pense que c'est quelque chose qui parle, hein. On a tous en tête les jardins de nos grands-parents ou voilà certaines émotions, voilà, ça évoque un grand nombre de choses. Et puis je pense que voilà autour de la pédagogie et tout, je pense qu'il y a quelque chose en termes de voilà de paysage sonore, visuel, olfactif. Moi ce que je rappelle, c'est que moi dans mon modèle, c'est le vivant, hein, qui est au cœur du modèle. Donc voilà, la biodiversité elle a son rôle dans le modèle et même son rôle est central. Et donc voilà, on imagine bien que ça fait quand même un grand nombre de choses à voir, à entendre, et c'est assez merveilleux, surtout pour les enfants. Oui.
Tout à l'heure, quand Fiona Lazar exposait son projet, enfin le Conseil national, vous étiez vraiment en phase et dans vos besoins, vous parlez d'avoir une rémunération décente.
Oui, je pense que c'est un peu particulier après un master en analyse, c'est-à-dire que on passe des années pour aller vers un métier vers lequel les gens pour une bonne partie, soit se suicide, soit gagne des revenus un peu misérables quasiment. Enfin voilà, je pense qu'il y a une sous-évaluation de ouais non, clairement la profession est un peu mise à mal. Et puis voilà, il y a eu un grand nombre de crises. Il y a tout un tas de solutions qui leur ont été vendues aux agriculteurs ces dernières années et qui n'ont pas forcément marché, voire jamais marché. Non, c'est une profession.
Vous allez pouvoir revenir sur ce modèle. Vous avez lancé une campagne de financement participatif. Hein.
Alors elle est dans les tuyaux. Elle devrait arriver là prochainement. Donc voilà, c'est l'actualité du jour.
Et un dernier mot, Marc-Antoine, vous vouliez parler de l'obligation de composter au 1er janvier 2024.
Oui, parce que c'est quelque chose qui est arrivé là récemment, et je pense que donc finalement tout le monde doit cette année se préparer à composter.
Ça sera aussi un grand changement au niveau de l'éco-responsabilité, c'est clair. Merci Marc-Antoine de votre témoignage. Merci. Et pareil, on espère comme pour Linda que votre projet réussisse, et puis de toute façon avec Amel on va vous suivre.
Parfait. Si vous voulez suivre le projet, c'est sur Instagram le concept Sergi.
Très bien, avec un K.
Exactement.
Merci Marc-Antoine. On fait juste une petite pause et je donne la parole à Maxime dans quelques minutes.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios.
C'est l'économie en direct et ce matin nous avons 5 invités, donc il faut que chacun puisse s'exprimer. Donc on termine avec vous, Maxime Hanon. Vous êtes artisan pâtissier auto-entrepreneur. Comme Marc-Antoine, au départ, vous ne vous destiniez pas vraiment à la pâtisserie, si j'ai bien compris.
Alors non, pas du tout. Moi, je viens de base de.
Parlez bien en face du micro, Maxime.
C'est bon.
Voilà.
Alors oui, du coup pas du tout. Moi de base je viens des sciences. J'ai fait un bac en STL, du coup dans les laboratoires pour devenir laborantin, axé en physique, chimie et biologie. Et en fait après mon bac j'ai commencé des études supérieures et je me suis très vite rendu compte que ça me correspondait pas. J'ai toujours été de base passionné par la pâtisserie et en fait quand j'étais dans les amphithéâtres à essayer de suivre les cours, je me demandais vraiment qu'est-ce que je faisais là. Et du coup, de fil en aiguille, j'en suis venu à me dire que j'allais faire une réorientation et vivre de ma passion. Donc tout a commencé à ce moment-là où du coup, après avoir passé mon bac, j'ai dû payer une école de pâtisserie pour faire une formation, donc à l'école Grégoire Ferrandi à Paris. Et suite à cette formation, du coup, en post-bac, qui est une formation accélérée de seulement 8 mois intensifs où on fait que de la pâtisserie, on n'a pas les matières générales à côté, j'ai pu directement me lancer en fait dans ce métier. Premièrement dans un restaurant étoilé à Paris, donc c'était très intéressant, très enrichissant pour moi. Ça a été très dur, mais vraiment, je suis très fier de cette expérience. Et suite à ça, j'ai continué mon petit bout de chemin en pâtisserie, si je puis dire. Je suis allé en Alsace apprendre des traditions. Je suis revenu à Paris dans une pâtisserie fine dans le 5e arrondissement qui marchait très bien pour me familiariser avec des produits haut de gamme, tout ce genre de choses. Et suite au Covid, un peu aux aléas de la vie, je suis revenu dans le 95 et j'ai décidé à partir de ce moment-là de créer ma propre entreprise avec ma vision, mes valeurs, avec vraiment une volonté de mettre en avant les produits et les producteurs du Val-d'Oise, parce que mine de rien, dans notre département, on a beaucoup d'acteurs.
Absolument, c'est un département très riche à ce niveau-là.
J'ai toujours voulu de base vivre de ma passion, du coup, à partir de ce moment-là que j'ai pris cette décision, et c'était l'objectif de devenir chef d'entreprise à un moment ou un autre, et voilà, les aléas de la vie ont fait que j'en suis arrivé là maintenant.
Écoutez, bravo. Vous dites que vous avez toujours adoré la pâtisserie, vous en faisiez avec votre maman ou peut-être grand-mère?
J'ai toujours fait de la pâtisserie à la maison. Il y a toujours eu dans la cuisine un petit tiroir avec le rouleau à pâtisserie, la balance, tout ce qu'il fallait pour commencer à faire des petites choses. Et il y a très longtemps même, j'ai eu la chance de rencontrer un pâtissier qui avait été meilleur ouvrier de France, qui malheureusement aujourd'hui est décédé, qui lui m'a vraiment transmis une véritable admiration, en fait, à partir d'œufs de sucre et de farine, on fait quelque chose qui peut avoir mille et une formes, qui est totalement extraordinaire.
C'est vrai.
Donc, j'ai toujours été passionné là-dedans, et depuis tout petit, je fais ça. C'était un petit peu, ma vocation de base, hein, même si je le savais pas au début.
Vous étiez au fond de vous, ça a toujours été. Un virage que vous ne regrettez absolument pas.
Pas du tout.
Absolument pas. Vos spécialités, c'est la pâtisserie fine et les viennoiseries. C'est un vrai savoir-faire. Il faut beaucoup de technique et puis aussi de la créativité.
Tout à fait.
Et vous éclatez.
J'adore faire ça. C'est un contact avec la matière, hein, concrètement, il y a beaucoup de choses à faire avec une base de la pâte à croissant, par exemple, quelque chose qui est relativement simple. On peut le décliner sous plein de formes, plein d'arômes, plein de manières de faire. Et c'est vraiment ça que j'aime dans ce métier, c'est que ça rejoint un peu la biologie, la physique, la chimie.
Oui,
c'est
complètement.
La liaison de plusieurs éléments en donne un autre.
On est bien d'accord que la cuisine, c'est de la chimie, hein.
C'est clair.
Est-ce que vous avez une spécialité en particulier?
La viennoiserie, principalement. Oui. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire et que je pense faire plutôt très bien. Au long de ma courte carrière, si on peut dire, j'ai eu l'occasion de tout faire et j'adore faire vraiment des banquets. J'adore faire plein de petites pièces. C'est ce qui prend le plus de temps, malheureusement, mais c'est quelque chose que j'adore, voir des armées de petites tartelettes sur le plan de travail.
Faire appel à vous quand on aura besoin. Il y a aussi cette notion de partage, hein, quand on fait de la cuisine.
Absolument.
Ça, c'est important.
Et en tant que, justement, tout à l'heure, je parlais des acteurs dans le Val-d'Oise, et par rapport au partage, je suis en train de mettre en place des ateliers avec les jardins de Cocagne, donc à Conflans, qui eux en fait ont des employés en réinsertion professionnelle. Donc moi je travaillerai avec ceux qui travaillent en fait dans leur cuisine. Ils font des plats pour les SDF en fait. Ils produisent des grandes quantités de nourriture et après ils vont les distribuer aux SDF. Et en fait toujours dans un souci de partage et de développement de l'activité.
De solidarité.
Voilà, de solidarité. Je vais faire en fait avec eux des ateliers où je vais leur montrer comment faire facilement, rapidement, certains desserts qui peuvent du coup faire en assez grande quantité et distribuer sans que ça prenne trop de temps, ce soit trop cher ou trop galère. Donc
voilà, moi ce que j'adore dans cette émission, c'est qu'à un moment donné, il y a une vraie symbiose entre les uns et les autres, alors que c'était pas prémédité, et ça rejoint un petit peu ce que vous nous disiez, hein, Fiona, au début de l'émission. Donc, votre entreprise existe ou elle est en cours de création?
Alors, je suis immatriculé depuis mi-décembre à peu près. Mais on peut pas dire que je me sois proprement lancé pour l'instant, car mon laboratoire de production, du coup, qui est un peu, entre guillemets, une dark kitchen. Donc, c'est pas un laboratoire Capignan sur rue, c'est vraiment un laboratoire de production. J'ai encore quelques petits travaux à faire dedans, notamment l'installation de mon four, qui est un peu primordial pour pouvoir commencer l'activité sérieusement. Mais on va dire que là, je suis immatriculé et je suis sur vraiment le début du démarrage. À la fin de la semaine, si tout se passe bien, je peux officiellement dire que je suis lancé et commencer à vraiment mettre en marche ma stratégie commerciale pour avoir plus de visibilité et voilà, commencer à me faire connaître.
Sachant que là, aujourd'hui, le fait de commencer en ce moment, il y a des problèmes de hausse de prix de l'énergie. Donc ça va être peut-être un frein.
C'est un pas un frein, c'est parce qu'en tous les cas, je dois faire avec. J'ai oui. pas le choix. Mmh. Si je veux me lancer, il faut que je fasse avec les prix de l'énergie en ce moment. Donc, évidemment, avec le bouclier tarifaire et tout ça.
C'est ça. Vous connaissez ça... les aides, hein, puisque voilà, genre, oui. nous en avons parlé la semaine dernière. Mmh. On a décliné toutes les aides mises en place oui. par le gouvernement pour.
Donc
pour
ça va limiter la casse effectivement, mais je vais voir. En fait, ce sera là dans les premiers mois. Quand je vais voir mes factures d'électricité, mmh. hein, tout bêtement, que je vais pouvoir ajuster, faire en fonction, parce qu'effectivement là, pour l'instant, je suis totalement confiant sur la pérennité de mon projet, mais mmh. quand j'en suis arrivé à souscrire mon contrat d'électricité, c'est là où les vraies premières questions, les vrais premiers doutes sur la rentabilité, le fait que ça puisse tenir des années et des années comme ça, c'est vraiment là où je me suis posé des questions, parce qu'effectivement, j'ai été obligé du coup de souscrire un contrat en triphasé chez EDF, ce qui représente un certain coût. Donc effectivement, on va voir ce que l'avenir nous réserve. C'est un peu le gros défi de créer une entreprise.
L'inconnu,
en tout cas,
c'est
l'inconnu. En restauration, du moins, en pâtisserie, effectivement, en ce moment, l'énergie, c'est un peu le problème. Les matières premières ont aussi énormément augmenté. Mais l'énergie, effectivement, on va voir par la suite ce que ça donne et il faudra aviser en fonction.
Et votre laboratoire sera situé où ?
Alors, je suis à Villiers-Adam, dans le 95. Donc, c'est, comme je disais, c'est pas du tout un laboratoire, une boutique qui aura pignon sur rue.
Pour le moment, c'est...
Voilà, je vais principalement vendre au début pour me faire connaître sur les marchés régionaux alimentaires. Et surtout, je veux faire une grande campagne de communication, en fait, pour tout ce qui va être pour toutes les entreprises, en fait, travailler plus en B2B ou pour les particuliers, mais sur des gros événements, en fait. Ce qui me permettra aussi de régulariser ma production et de ne pas d'avoir beaucoup moins de gâchis, car je vais pas devoir produire pour mettre en vitrine et essayer d'avoir de la clientèle de passage comme énormément de pâtisseries font. Là, c'est ce qui va me permettre aussi, dans un point de vue éco-responsable, de toujours faire de la production qui va se vendre, donc travailler sur devis avec des contrats qui me permettent de savoir qu'est-ce qui doit être produit pour sortir de l'entreprise sans gâcher de la matière, de l'argent et voilà.
Oui, on sent que vous avez bien réfléchi au business plan et que voilà, c'est une belle aventure. Et, écoutez, Maxime, on espère aussi que on vous souhaite toute la réussite possible. Et puis, comme je l'ai dit pour Marc-Antoine et Linda, on va bien évidemment vous suivre. Amel, vous devez être fière de vos candidats.
Bah oui, en fait, on est fiers de tous les entrepreneurs qu'on accompagne et encore plus de cette jeunesse, parce qu'on voit très bien qu'ils ont des projets qui sont très impactants au niveau social, environnemental. Ils portent tous des vraies valeurs de solidarité, de proximité. Hein. On a beaucoup parlé de local. Et c'est vrai que c'est une grande fierté. Et c'est pour ça qu'on est très contents voilà, aussi d'avoir monté ce projet avec le département du Val d'Oise, puisque je tiens quand même à remercier le département. Hein, puisqu'aujourd'hui, ces jeunes vont pouvoir créer leur entreprise grâce à ce soutien financier. Parce que on sait très bien que l'argent, c'est un peu le nerf de la guerre.
Hein. Absolument. Voilà. Merci, Amel. Fiona Lazare, mot sur ces candidats. Qu'en dites-vous ?
Merci beaucoup, Jacqueline. Et je suis ravie d'avoir entendu ces trois projets engagés au plan à la fois écologique et social. Donc, de très belles pépites qu'on a dans notre département. J'en doutais pas, mais on en voit encore aujourd'hui de belles illustrations. Et puis, je trouve que vous avez... bien choisi votre jour pour inviter un professionnel des fleurs, une des cosmétiques et une de la pâtisserie en ce jour de Saint-Valentin. Oui. Il fallait le faire, bravo.
Écoutez, merci à vous. Je me disais aussi qu'ils pourraient très bien rejoindre ce conseil national, puisque avec leur sens de l'éco-responsabilité et puis de la... Enfin, on sent que la solidarité fait partie de leur ADN aussi.
Tout à fait, et c'est bien comme ça que ça marche le mieux, c'est quand au plan local, en fait, chacun agit avec ses moyens, avec ses idées, avec ses projets. Et si tout le monde était aussi engagé, finalement, je crois qu'il y aurait moins de problèmes dans notre pays.
Exactement.
Donc voilà, je crois que la jeunesse est l'avenir de la France. Et quand on voit les valeurs qu'ils portent, il y a de quoi être rassuré et confiant pour l'avenir.
Oui, oui. Merci beaucoup, Fiona. Et merci à vous d'être venue et d'être fidèle aussi à IDFM Radio. Merci. Je vais demander un petit mot de conclusion à mes trois candidats. Donc, Marc-Antoine, un mot de conclusion avant de nous quitter.
Bah, alors, c'est très gentil, hein, là, l'éloge qui est faite. Bah, merci de nous avoir invités. C'est vrai que nous, on a des projets, on est engagés, on est parfois un peu la tête dans le guidon.
C'est le propre d'un chef d'entreprise, hein, la tête dans le guidon.
Sur le terrain, et puis, parfois on lève la tête et voilà, il y a des structures comme Initiative 95 qui savent nous aiguiller et voilà, heureusement le département est là pour nous soutenir dans notre démarche et j'espère que voilà, ça continuera et que cet engagement voilà, il arrivera à être mis en lien avec des volontés politiques tout en.
Écoutez, on est complètement à fond avec vous, donc plein de bonnes choses, Marc-Antoine Gendry. Merci. Donc fondateur, pardon, je veux absolument vous associer de le concept de Sergi. Linda Nguyen, un mot de conclusion.
Tout déjà, un grand merci déjà de nous avoir accueillis. Ça s'est très bien passé pour une première fois.
Oui, vous étiez très inquiète avant l'émission.
Mais tout s'est très bien passé. Enfin, on était très bien entourés. Et mon mot de la fin, c'est vraiment de remercier la région et aussi Initiative qui nous a vraiment accompagnés dans ce parcours de coaching et qui nous a fait monter en compétences, où on a été très bien aiguillés. Et un grand merci du coup pour toutes ces initiatives qui sont mises en place pour aider les jeunes entrepreneurs.
Ben, merci à vous de vous inquiéter pour la planète, hein, puisqu'on a bien compris que ça faisait partie du projet de votre entreprise. Merci à vous.
Merci.
Maxime Anon, un mot de conclusion.
Je vais rejoindre Linda et Marc-Antoine. Hein. Merci beaucoup pour cette invitation, de nous mettre en avant comme ça. Je remercie aussi Initiative 95-78 pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. À titre personnel, ça fait aujourd'hui exactement un an que j'ai quitté mon ancien travail. Donc, faire toute cette évolution.
Qu'à vous entendre, on a l'impression que ça fait très longtemps.
Énormément travaillé dessus, mais grâce à Initiative 95, j'ai pu effectivement monter tout le business plan, l'étude de marché et faire toutes les démarches pour les financer. En à peine un an. Donc merci beaucoup. Nous, on a un projet, on a un but, mais sans des acteurs comme vous, comme Initiative, on ne pourrait pas forcément y arriver aussi vite ou aussi bien.
Oui, après, il y a vraiment la volonté d'y arriver aussi.
C'est ça,
hein,
oui,
je crois.
Il y a la volonté, mais si on peut se raccrocher à justement des aides comme Initiative qui nous soutiennent et qui peuvent même nous élever, c'est la meilleure des choses. C'est comme ça qu'on peut réussir à avancer grâce à l'entraide, comme on disait au début.
J'ai oublié de vous demander à tous les trois, comment avez-vous connu Initiative 95, Maxime, par exemple?
Alors moi, je suis passé par la mission locale de Persan. Et en fait, la mission locale m'a très vite dirigé vers Initiative 95. Et je suis allé chez la mission locale pour avoir la subvention EVA.
Oui.
Et donc du coup, j'ai fait les démarches avec eux et directement, ils m'ont transféré vers Initiative 95. Donc après, j'ai monté un dossier avec eux et voilà.
Amel Guédon voulait ajouter quelque chose.
Oui, par rapport à ce que dit Maxime, le lien avec les missions locales, nous on travaille très étroitement avec les missions locales, l'école de la deuxième chance, puisque on est aussi dans l'accompagnement et la sensibilisation à l'entrepreneuriat, parce que sensibiliser les jeunes à l'entrepreneuriat, c'est aussi leur permettre aussi de se dire qu'un jour ils peuvent créer leur propre entreprise, créer leur propre emploi, et dans ce cadre-là, créer des emplois aussi. En plus, on a un cercle vertueux parce que c'est des entreprises qui sont engagées socialement et environnementalement, c'est encore mieux. Et par rapport à ça, on monte un projet qui s'appelle la Battle de la Créa. Donc je me permets d'en dire juste un mot. On accompagne des jeunes issus de l'école de la deuxième chance, du Hub, de la réussite et des missions locales sur un projet d'entrepreneuriat fictif. Et ensuite, ils montent un projet, il va y avoir des votes et on a une remise des prix qui se fait le 9 mars à Théâtre 95. Point commun à Sergi. Donc, si vous voulez venir les soutenir, parce que c'est aussi important, parce que la jeunesse, les soutenir dans des, même si c'est un faux projet, ce sont des projets qui sont engagés et vraiment ils sont formidables et ils méritent qu'on puisse venir les soutenir. Et c'est pour ça que effectivement le lien avec les missions locales est aussi proche, puisque dès que les conseillers détectent une envie d'entreprendre, Initiative 95-78 est là derrière pour accompagner le jeune à mettre en place ce projet-là.
Et moi, je le dis très souvent, mais il est pas rare que dans mes émissions, presque chaque semaine, j'ai un candidat, enfin j'ai un créateur d'entreprise qui soit passé par Initiative 95. On sait que vous faites un très très gros travail à ce niveau-là. Bravo, bravo.
Merci. Vraiment.
Linda, comment avez-vous connu Initiative?
Alors moi, j'ai connu Initiative grâce à la Chambre de commerce. Comme je le disais, en fait, quand j'ai quitté mon poste il y a un an, je partais avec une superbe idée. Mais c'est vrai que ça fait pas tout au final, enfin on devient pas entrepreneur du jour au lendemain, et du coup c'est vrai que en me rapprochant de la chambre de commerce, il faut savoir que c'est vraiment un vrai maillage territorial, et en fait une fois qu'on rentre, qu'on ose ouvrir les portes, on est redirigé enfin par toutes les par tous les organismes en fait qui vont nous aider dans cette aventure entrepreneuriale. Et c'est comme ça qu'on m'a parlé d'Initiative et tous les acteurs qui pouvaient m'accompagner dans cette aventure.
Voilà, et tout s'est mis en place.
C'est ça, exactement.
Et vous, Marc-Antoine Gendry?
Et moi, bah, j'ai entrepris d'aller à la rencontre de tout un tas d'acteurs à l'échelle du territoire, et immanquablement, Initiative était présent.
C'est bah, vous-même qui avez fait la démarche.
Et donc voilà, c'est... c'était comme une évidence, hein. Voilà.
Très bien. Bah, écoutez, merci pour ce message, et j'espère que tous nos auditrices et auditeurs qui ont envie de se lancer dans l'aventure auront retenu vos conseils, et puis pourront s'adresser sans problème chez Initiative 95. Voilà, notre émission est terminée. Merci infiniment d'avoir été les invités en direct de cette économie en direct. Merci Francky pour la technique. Dans quelques minutes, Christophe Graveau nous présentera son émission Balade musicale. L'émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Retrouvez son podcast sur le site et l'appli de IDFM Radio. Vendredi, nous parlerons encore avec des jeunes, puisque nous allons parler de la semaine école-entreprise qui a eu lieu fin novembre, début décembre, en lien avec le MEDEF, le MEVO. Et c'était en novembre et en décembre dernier 2022, et dont le thème était France 2030, les jeunes et les entreprises au cœur du défi des compétences. Donc, vous voyez, on est vraiment dans le même sujet. Et puis, d'ici là, eh bien, portez-vous bien. À vendredi. Et prenez soin de vous.
Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour, quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour, quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours, quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs, quand on n'a que l'amour. L'amour pour habiller matin pauvres et malandrins de manteaux de velours, quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour, quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat et de chercher le jour, quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour, quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour, alors sans avoir rien que la force des
IDFM en DAB+, sur toute l'Île-de-France.